France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le 7 octobre 2013, il y a 10 ans, le grand metteur en scène Patrice Chéreau mourait d'un cancer. Il y avait les metteurs en scène et il y avait Chéreau, homme à part, travailleur fou, aimant, amant, qui plaçait la peinture au-dessus de tous les arts, mais en pratiquait tant d'autres, le cinéma, le théâtre évidemment, l'opéra, le dessin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un book club en hommage à Patrice Chéreau qui s'appuie sur la parution du 5e tome de son journal de travail 1977-1988. Julien Santresse et Richard Pédou sont invités pour nous en parler. À 15h50, nous retrouverons Lou Quevauvillier qui, dans sa chronique Lecture numérique, s'intéresse à la littérature, etc. C'est un site, et aux Parleuses, c'est un podcast, mettant en lien des autrices contemporaines avec des autrices du passé. Et en fin d'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent le grand jeu des pages musicales pour qu'on se quitte en chanson. Vous avez le programme, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club, on est ensemble pour une heure. Et bonjour à vous, Richard Peduzzi.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes scénographe, vous êtes peintre, vous fûtes un compagnon de route essentiel de Patrice Chéreau. Merci beaucoup d'être avec vous. Bonjour Julie, avec vous. Merci d'être avec vous et merci d'être avec nous. Bonjour
merci.
Julien Santresse.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, chercheur, vous avez été chargé de l'édition de ce journal de travail de Patrice Chéreau qu'on va évoquer en longueur tout à l'heure. Mais ici, d'habitude, tout commence par ce qu'on appelle un questionnaire de lecture. D'habitude, on l'adresse directement à nos invités pour faire des portraits d'elle et d'eux en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Là, on va essayer une sorte de questionnaire de lecture adressé à Patrice Chéreau pour imaginer qu'il était aussi un grand lecteur. Est-ce que vous vous souvenez d'une image de lui, d'une photographie de lui, un livre à la main, Richard Peduzzi ?
Pas vraiment, hein, je ne me souviens pas vraiment. Je me souviens d'images ou de photos de lui, des livrets ou des mises en scène qu'il a notées. Et qui trimballait tout ça sous le bras, avec probablement des livres, mais je ne peux pas dire vraiment de façon précise me souvenir d'une photo où il avait un livre particulier.
Est-ce que si vous deviez décrire le lecteur qu'il était, vous utiliseriez des mots en particulier ? C'était quoi comme lecteur, Patrice Chéreau ?
Non, parce qu'il était très à la fois éclectique et à la fois. C'est-à-dire qu'il il s'alimentait de beaucoup de livres. Il aimait beaucoup la littérature américaine, dont John Cheever, Raymond Carver, Richard Yates. Et il pouvait travailler sur des auteurs allemands ou des scénaristes de n'importe quel pays. Il pouvait revenir comme ça à des livres qui apparemment n'avaient rien à voir avec... avec ce qu'il le texte ou la mise en scène qu'il était en train de préparer. On s'échangeait souvent des livres parce que comme lui comme pour moi, je crois que dans les livres il y avait des paysages qui nous parlaient et qui nous faisaient dessiner, lui dessiner, moi aussi. On s'échangeait les idées comme ça avec les livres et très souvent, par exemple, je me souviens, on avait lu sans se le dire, Le cœur est un chasseur solitaire, et on s'était appelé pendant les vacances en disant je suis tombé sur un livre génial.
Et c'était le même,
voilà. Et souvent c'est arrivé entre lui et moi.
Mais c'était une forme de dialogue alors. C'était une sorte de dialogue continué.
On l'avait en permanence, ce dialogue-là. Et que ce soit ou Carson McCullers ou Carver, on avait, je crois, des goûts communs. Mais pas tout le temps, pas toujours. Il avait ses lectures secrètes que je connaissais pas, comme moi j'ai les miennes. Mais en même temps, souvent, ça nous épaulait, ça étayait quelque chose en nous, et on y voyait. Vous savez, on dit souvent des gens, je le répète tout le temps, celui-là, il voit la même chose que moi. Il regarde la même chose, mais je ne sais pas ce qu'il voit. Et je sais qu'avec Patrice, on regardait la même chose, on voyait la même chose, avec certainement une légère différence qui faisait, avec cette différence, une autre chose encore.
Est-ce qu'il vous demandait, est-ce qu'il était curieux de vos lectures ? Est-ce qu'il vous disait, Richard, toi, tu lis quoi en ce moment ?
Non, on se demandait pas. Ça venait presque automatiquement comme ça, comme la façon de travailler qu'on avait ensemble, si vous voulez. Parfois je lui parlais de la mise en scène, parfois il me parlait du décor. On s'échangeait comme ça des idées, puis parfois on parlait de rien et on travaillait sur autre chose pour en arriver finalement au décor et à la mise en scène.
Si vous deviez, à la lecture des archives et de son journal de travail, Julien Santresse, définir le lecteur qu'était Patrice Chéreau, vous diriez quoi ?
C'est quelqu'un qui lit absolument tout et qui a une soif d'apprendre et de découvrir toujours de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui annote, comme l'a dit Richard. Je pense qu'effectivement, moi non plus, je ne crois pas à ma souvenance de photos de Patrice Chéreau avec un livre à la main. Mais par contre, c'est vrai que il avait toujours à côté de lui des feuilles volantes, des feuilles sur lesquelles il prenait évidemment ses notes, les feuilles A4. Mais comme c'est aussi quelqu'un qui voyage énormément, chaque semaine, il est toujours en itinérance. C'est aussi quelqu'un qui avait avec lui des photocopies d'ouvrages. Donc, il a toujours des sélections d'ouvrages sur qu'il la note. C'était aussi beaucoup de livres de poche. À partir des années 60, bien sûr, la révolution du livre de poche l'a beaucoup aidé aussi dans son travail. C'est aussi des livres qu'il peut
travailler avec lui, dans le train, voyager, dans l'avion, etc.
Voilà.
Donc tout, voyager léger, avoir un livre dans sa poche. Est-ce que vous diriez, Julien Cintresse, que les lectures étaient toujours reliées au travail? Peut-être la vie était toujours reliée au travail, auquel cas les lectures étaient nécessairement reliées au travail.
Oui, oui, absolument. Les ouvrages de Chéreau qu'il lisait, effectivement, toutes les notes de travail de Chéreau, en fait, ne font que ça. Elles ne font que
faire parler
en fait aussi des ouvrages très différents, de les faire se rentrer en collision les unes avec les autres. Donc, toutes les notes de travail n'évoquent effectivement que des lectures et que des mises en relation d'auteurs parfois très différents, d'époques très différentes.
Le Book Club, c'est une communauté d'auditeurs et de lecteurs, et l'un d'entre eux vous a envoyé une question. On va l'écouter, Richard Peduzzi. C'est une voice note de Valentin.
Bonjour, Richard Peduzzi. Souvent est mentionné le travail de Chéreau comme étant un travail à la table, avec différents tréteaux, avec des planches installées, différents documents placés dessus pour différentes mises en scène. Mais également, on parle d'une bibliothèque. Et comme on est au Book Club, et je sais que cette émission a un certain rapport d'affection avec ces lieux-là, est-ce que vous voudriez bien nous en parler un peu de la bibliothèque de Chéreau, à quoi elle ressemblait, les souvenirs que vous en avez, comment vous vous sentiez là-bas?
Un grand merci à Valentin pour cette question, Richard Peduzzi. Alors, à quoi ressemblait cette bibliothèque?
Alors, pour tout vous dire, la bibliothèque de Chéreau, celle à laquelle vous pensez, il m'a demandé de lui dessiner, donc c'est moi qui lui ai dessiné. Et elle était assez monumentale, assez gigantesque, avec des tas de livres empilés, apparemment n'importe comment, mais pas du tout n'importe comment, ouais. Parce qu'il les empilait par section, en fonction du travail qu'il allait faire. C'était aussi un immense lecteur de journaux, donc il lisait les journaux, il découpait les journaux, il était presque maniaque avec ça.
On disait qu'il lisait des journaux étrangers, c'est-à-dire qu'il pouvait à la
partout,
fois avoir
il y en avait partout,
canard,
il y avait des
français, italien,
on voyait même les journaux qui traînaient là pendant des années, qui jaunissaient, tout ça. C'était, pour moi, ça faisait partie de l'entourage et du paysage mental de Patrice.
À quoi ressemblait cette bibliothèque que vous lui avez dessinée?
Elle était un petit peu, c'était, vous savez, il y a eu plusieurs périodes dans le travail qu'on faisait tous les deux. Il y a eu une période où on était l'un comme l'autre, je crois, un peu classique, baroque. Et cette bibliothèque, elle était, tout en étant assez simple, elle était comme, il y avait des moulures, il y avait des, ce que je ferais plus du tout maintenant. Il y avait des moulures, il y avait une corniche, il y avait des colonnes, il y avait tout ça, elle était en chêne. Enfin, elle était un peu institutionnelle comme ça. En la voyant comme ça, je me dis, tiens, c'est toi qui as dessiné ça, c'est bizarre. Mais bon, il l'aimait bien, mais il l'aimait bien jusqu'au moment où il a quitté son appartement, à la fin de sa vie. Et là, je dois dire qu'il y avait une bibliothèque qui était représentée par quelques planches contre un mur, et il y avait très très peu de livres. Il n'y avait plus de livres.
Il y en avait quand même quelques-uns.
Il y avait L'invention de la liberté de Starobinsky, et L'encre noire de la mélancolie, toujours de Starobinsky, quelques romans de Carver, et aussi Dostoïevski et Pierre Guyotat.
Ah oui, donc c'est des sacrés compagnons quand même.
Oui, parce que Patrice aussi faisait des lectures. Et je me souviens, j'ai assisté à une lecture à Rome, à la Villa Médicis de Guyotat, Coma, qui était une chose absolument merveilleuse, qu'il lisait formidablement aussi. C'était un grand lecteur, mais non seulement un lecteur pour lui, mais il transmettait à voix haute ce qu'il lisait. Et c'est quelqu'un qui aimait bien faire aimer aux autres ou faire participer les autres à ce qui le passionnait, à ce qui le touchait, quoi.
Il y a Valentin, cet auditeur, vous demandait aussi comment vous vous sentiez. Est-ce que vous aviez souvent l'habitude de jouxter cette bibliothèque de Patrice Chéreau, Richard Peduzzi?
C'est-à-dire?
Est-ce que c'est un endroit agréable?
Mais c'était dans son, c'était dans le bureau où il écrivait, où il travaillait, où il vivait, rue de Braque, et j'allais, on se voyait tout le temps. Donc où il venait chez moi à Paris, où j'allais chez rue de la Tour d'Auvergne, où j'allais chez lui, et c'était quand on travaillait sur un spectacle, sur moi sur les décors, sur les dessins, on s'échangeait des livres et voilà, on est, c'est, il y avait une espèce de fusion dans ce que dans notre travail qui était tout le temps comme ça.
Dans la matière échangée, quoi.
Oui. Mmh. Je me souviens, par exemple, je peux dire que je lui ai parlé pour la première fois de Hoffmannsthal, de la lettre du voyageur à son retour. Les couleurs sont les sœurs des douleurs, et c'est resté quelque chose entre nous comme ça. Quand on cherchait une couleur aussi bien une couleur dans le décor ou dans sa mise en scène, qui était souvent une mise en scène colorée comme ça, dans l'émotion. Voilà, on se redisait souvent ça en riant. Les couleurs sont les sœurs des douleurs. Voilà. C'est Hoffmannsthal, pardon, qui avait vu pour la première fois, je crois, à Amsterdam, une exposition d'un peintre méconnu. C'était Vincent Van Gogh. Donc, il dit ça.
La phrase vient de ça, les couleurs sont les sœurs des douleurs.
Il s'était pas trompé, quoi. Non. Voilà.
Julien Santras, vous aviez connaissance de cette bibliothèque-là?
Alors oui, on y a accès quand on travaille dans les archives, à la fois par les archives de l'INA. Il y a une émission de radio et une émission de télévision en 98, c'était à l'occasion de la promotion de Ceux qui m'aiment prendront le train, où Laura Adler, je crois, vient dans cette bibliothèque qui est rue de Braque. Et on voit cette très grande bibliothèque qui monte jusqu'au plafond. Il y a aussi un escabeau pliable pour aller chercher les ouvrages. Et c'est un atelier en même temps, un atelier de travail. Donc il y a ces trois ou quatre fameuses tables
ouais,
qui sont montées également sur tréteaux, qui sont remplies d'ouvrages avec des post-it, des annotations. Bien sûr, les feuilles volantes sur lesquelles il prend toutes ses notes.
Et qui sont, peut-être on peut dire, vous le racontez Julien Santres, la matérialisation des différents projets en cours.
Exactement.
Chaque table, c'est la façon concrète de faire apparaître les projets sur lesquels
c'était travaille. Effectivement quelque chose qu'il avait lui-même été chercher chez Strehler, qu'il avait pris à Brecht. Et par exemple, dans les bibliothèques, dans cet atelier bibliothèque, il y a aussi, par exemple, une photo de Strehler et de Paolo Grassi. Il y a aussi, par exemple, il y a aussi peut-être un aspect aussi cabinet de curiosité, parce que, par exemple, quand il avait monté la dispute, je crois, avec Richard, vous alliez à la librairie Alain Brieux, qui existe toujours, qui est en face de l'école de médecine.
Oui, mais c'est plus du tout la même chose.
C'est plus la même chose,
non.
Du tout. Mais Alain Brieux, donc, c'était quelqu'un qui était à la fois un érudit, un poète, qui était aussi un érudit, un marchand, donc quelqu'un qui s'y connaissait énormément dans tout ce qui était les appareils d'optique du XVIIIe siècle, tout ce qui était lié à la médecine, aux sciences. Et c'est là-dedans que vous avez été chercher à la fois des ouvrages anciens, donc sur un ouvrage qui s'appelait Les récréations mathématiques,
oui,
et physiques d'Edmé Gilles Guyot. Et puis
traité de perspective, toutes aussi, les, ouais, comme ça.
Et mais qui aussi servait concrètement votre travail, Richard?
Ah oui, ah oui, c'est-à-dire qu'on était allé, Brieux nous avait amené un matin en banlieue, je sais plus où, dans ses réserves, où là on avait choisi d'énormes miroirs concaves, convexes, des objets de mathématiques, effectivement, des traces, des grands compas, des choses pour tracer la perspective. Voilà. Et puis des livres, il y avait des tonnes de livres extraordinaires là-dedans. L'encyclopédie Diderot d'Alembert, bien sûr, et puis les traités des moines jésuites sur la lumière, sur la direction de lumière, sur tout ça.
Et les instruments d'optique qu'on voit dans la dispute viennent de là, et dans la bibliothèque de Chéreau, encore en 98, en tout cas, il y a certains de ces éléments d'optique.
Oui, il y en a encore.
Ouais. L'archive télévisuelle dans laquelle donc on peut voir apparaître.
Oui, alors par exemple, alors ça, peut-être que vous ne l'aurez pas sur INA.fr, mais par contre, ce que vous avez sur INA.fr, des fois, il faut y aller un peu par les chemins de traverse.
Ouais.
Regardez, par exemple, si ça existe toujours sur INA.fr, le clip de campagne électorale de Lionel Jospin en 2002.
Ok.
Et à l'époque, ça se faisait beaucoup, les artistes prenaient fait et cause pour un des candidats. Et dedans, il y a Chéreau qui témoigne son soutien à Lionel Jospin, mais c'est dans cet atelier de travail, et derrière lui, on voit la bibliothèque.
Bon, Voilà, si vraiment on veut assouvir sa curiosité pour la bibliothèque de Patrice Chéreau, on en passera par le clip de campagne.
Ça me donne envie de la revoir.
De Lionel Jospin. Bah oui, j'imagine. On va aller vers le cœur de l'émission, à savoir ce journal de travail. Donc c'est le tome 5, 1977-1988. Et on fait une petite pause musicale avec une nouveauté. Running Start de Sufjan Stevens.
Le metteur en scène doit apprendre à écouter, il doit apprendre à voir, il doit apprendre à regarder, il doit apprendre beaucoup de choses. Quelquefois, il doit apprendre à se taire. Et apprendre, en tout cas, et être à l'écoute des autres et essayer d'imaginer comment se croisent les trajets de tous les comédiens, de tous les destins d'une pièce ou d'un film, c'est pareil. Mais le plus important, c'est l'écoute. C'est ce qui manque quelquefois, que ce soit aux metteurs en scène ou aux acteurs. Le plus important, c'est l'écoute du silence. Le plus important, c'est le silence quelquefois. Et le plus important, c'est l'amour aussi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On vient d'entendre la voix de Patrice Chéreau, metteur en scène, grand metteur en scène au micro d'Arnaud Laporte pour cette émission Scènes Imaginaires enregistrée en 2013, 6 mois avant sa mort. L'émission est à réécouter entièrement sur franceculture.fr. Patrice Chéreau naît en novembre 1944 à Lézignier en Maine-et-Loire. Il meurt à Clichy d'un cancer le 7 octobre 2013, il y a 10 ans donc. Entre-temps, ses visions, sa force de travail, son amour des comédiennes, des comédiens, de l'espace, sa certitude qu'il faut raconter des histoires pour parler du monde, la petite révolution, grande révolution accomplie au théâtre de Nanterre, ont marqué les esprits et l'histoire du théâtre. Il tenait un journal de travail, ses notes ont été archivées à l'IMEC et vous avez eu la responsabilité, Julien Centresse, d'en établir une édition. C'est donc un book club consacré à Patrice Chéreau, au travail, que nous tentons aujourd'hui. Le 5e tome de ce journal vient de paraître en coédition Actes Sud et IMEC et il couvre les années de 1977 à 1988. Il est titré « Le temps du théâtre ». théâtre. On peut y lire une préface de la comédienne Dominique Blanc et puis évidemment un texte de présentation, des notes qui nous permettent de comprendre et resituer tous ces écrits. 1977-1988, quand je dis ces deux dates, ça vous évoque quoi, Richard Peduzzi ?
1977-1988, j'arrive pas à... C'est drôle maintenant, avec le temps, avec ces 10 ans passés, j'arrive pas à mettre une date sur un spectacle. Je vois une œuvre derrière tout ça, je vois les grandes œuvres, je fais une espèce de hiérarchie quand même dans les spectacles, quoi. Et je remonte dans le temps encore un peu avant en pensant à la dispute, en pensant au massacre à Paris, en pensant à Votre Sec. Je mélange exprès l'opéra et théâtre, en pensant à Tristan et Isolde, au Ring, en pensant, et surtout en pensant extrêmement fort au dernier spectacle, I Am the Wind et Electra.
Alors peut-être que je peux vous aider. Il y a Peer Gynt dans cette période-là, il y a L'homme blessé, il y a Hamlet en 88.
Alors évidemment, je me souviens de tout ça, mais Hamlet a été un grand moment aussi, Peer Gynt aussi, donc ça a été que des grands moments si vous voulez. Hamlet, ça a été quand même quelque chose de vraiment à part de tout ça. Et c'était en même temps, c'était la continuité de Lucio Silla. Lucio Silla était un spectacle vertical, si je veux dire, et Hamlet, c'était un spectacle horizontal sur lequel c'était une page du monde qui se retournait et on marchait, les comédiens marchaient sur cette page du monde. Et c'est-à-dire que on faisait toujours en sorte que le décor, la mise en scène et le décor, on ne distingue pas l'un de l'autre. Ça devait être
un geste commun.
Il fallait absolument que ça se fonde l'un dans l'autre. De même les costumes, de même la musique et au fond de même les acteurs. Et j'ai toujours tenté de faire en sorte que le décor soit lui-même un acteur. C'est-à-dire qu'il accompagne le jeu, qu'il suive la comédie. À la limite, j'avais envie que le décor émeuve aussi les gens. Voilà.
Pour retrouver l'idée de la couleur et des douleurs.
L'idée du mouvement, l'idée de la couleur et puis l'idée de la palpitation de la vie, quoi. Et puis aussi ce grand souci qu'il avait, d'économiser le vide, de respecter le vide et de ne pas encombrer le plateau inutilement, de ne pas surcharger, si vous voulez. Il fallait qu'on sente toujours de l'air et effectivement du silence et vide.
On entendait cette archive où il parlait de sa manière de travailler. C'est une archive qui est vraiment très proche de sa mort. Patrice Chéreau au travail, c'est le titre de cette émission, Richard Peduzzi. Vous avez été dans cette grande aventure de travail, folle aventure de travail. On a souvent dit que c'était comme ça, quelque chose qui ne s'arrêtait jamais, qui était presque, ça donnait un sens à l'existence, à la sienne, à la vôtre, à tous les gens qui étaient autour de lui. Si vous deviez, vous avez commencé de le faire, décrire ce que c'était que Patrice Chéreau au travail, vous le feriez comment, Richard Peduzzi ?
Écoutez, Patrice Chéreau au travail, c'était Patrice Chéreau dans la vie, je veux dire. Et quand on marchait, quand on se promenait ensemble dans une ville, on était au travail et dans la vie. Quand on buvait des verres dans un bar, quand on écoutait de la musique, on était ensemble dans la vie. Et quand on était chacun à notre table de travail, on était au travail. Donc je ne peux pas dire, là où vraiment je le voyais travailler complètement isolé et seul, c'était au milieu d'une foule d'acteurs, par exemple, ou avec un acteur. Là, on sentait qu'il était impénétrable, qu'on ne pouvait pas l'atteindre, et qu'il était absolument concentré, qu'il avait un point fixe à atteindre. C'était ce qui, pour lui, permettait à l'acteur d'aller plus loin. Et souvent, Patrice se servait des maladresses des gens. Pour les faire remonter à la surface et comprendre ce qu'il y avait de douloureux, ce qu'il y avait de joyeux chez quelqu'un. Il était extrêmement, il aimait pas, je crois, la psychanalyse, tout ça, mais il était très psychologue lui-même. C'est autre chose, il disait toujours d'être psychologue et la psychanalyse. Donc il essayait de comprendre vraiment l'âme des gens, en les regardant, en les voyant marcher, en comprenant leur maladresse. Il y a une chose très belle qu'il dit même de lui, à propos du théâtre et du travail, dans le film qu'on a vu récemment, là.
Un documentaire.
Oui. Il disait qu'il se trouvait ingrat quand il était très jeune. pas beau, les cheveux en brosse, tout ça, alors que par la suite, il était devenu très beau. Mais il se disait, au fond, j'ai commencé à me tenir droit la première fois où je suis monté sur un plateau. Et je trouve ça magnifique, je trouve ça très bouleversant, quoi, parce qu'effectivement, le théâtre a embelli quelque chose à l'intérieur de lui-même, à l'extérieur, partout, et puis il lui a donné une sorte d'égocentrisme, égoïsme extrêmement généreux. Voilà, si je pouvais dire, c'est un mélange de tout comme ça.
Ouais. Et comment est-ce que ça transpirait sur les autres, sur l'entourage ou sur les personnes qui travaillaient ? Donc vous avez été un très proche, vous, Richard Peduzzi, dans ce texte qui, comme ça, inaugure, est en préface de l'édition de ce cinquième tome du Journal de Travail. Il y a un texte de Dominique Blanc qui a aussi été une très proche, qui parle de l'évolution de son travail et de son amitié avec Patrice Chéreau, qui dit que ça modifiait la vibration, quoi, ça modifiait l'air.
Je me souviens quand Isaac Rabin a été assassiné, je me souviens de sa petite fille qui avait fait un discours absolument magnifique en disant « il était une flamme dans la nuit ». Et je pense que pour beaucoup, Patrice était quand même une référence, une flamme. Et les gens, ils avaient une telle confiance en lui, dans son jugement, dans sa façon de les approcher, que ça les rendait meilleurs ou parfois ça marchait pas, ils s'entendaient pas avec des gens, donc ça cassait. Mais quand ça marchait, ça les rendait plus grands, meilleurs, et effectivement, beaucoup faisaient de leur maladresse quelque chose d'émouvant et de touchant. Il y avait toujours la vie dans ce qu'ils voulaient raconter. Il y avait la vie et la mort. Il y avait un combat en permanence sur le plateau qui ne parlait au fond que de ça, que de la nature humaine, que des moments les plus courts aux moments d'éternité.
On va retrouver notre auditeur Valentin qui vous adresse cette fois une question à vous, Julien Santresse, fasciné par l'idée que vous ayez côtoyé comme ça pendant des années toutes ces archives de notes de travail.
Moi aussi.
Bonjour Julien Santresse. Je suis très heureux que l'émission du jour soit consacrée à Patrice Chéreau, qui est un metteur en scène qui me fascine toujours d'ailleurs. Et je me demandais qu'est-ce que ça fait en tant que voilà individu de passer presque, j'imagine, 5 ou 6 ans, peut-être davantage, de sa vie dans les archives de quelqu'un. Et aussi, est-ce que en dessinant comme ça le sens de la pensée, ou en tout cas les réflexions, les différents mouvements, est-ce que ça influe d'une certaine manière, est-ce que vous avez remarqué ça, que ça influençait votre propre pensée et votre propre méthode de recherche ?
Alors, vous avez eu, Julien Santresse, la responsabilité d'éditer, de mener l'édition de ce journal de travail. Valentin se demande qu'est-ce que ça fait. Moi, je dirais même avant qu'est-ce que ça fait, à quoi ça ressemble, ces notes de travail de Patrice Chéreau.
Alors, moi, je suis entré d'abord, la première fois où je me suis confronté à des notes de Chéreau, c'était à l'époque où je terminais mon mémoire et j'avais travaillé sur les archives de la Reine Margot à la Cinémathèque française. Or, il se trouve qu'il y a à ce moment-là assez peu d'écriture de la part manuscrite de Chéreau. Donc je m'étais aperçu que c'était une écriture qui était difficilement lisible, mais je ne m'étais pas encore confronté à toutes les notes. Chose faite quand j'ai commencé ma thèse, où là vraiment je me suis confronté à tout ce qui était à l'IMEC, c'est-à-dire plus de 300 cartons d'archives, notamment de notes de travail. Et là effectivement on s'aperçoit qu'il y a d'abord une écriture à maîtriser, une écriture qui est très difficile à lire, je le répète, mais par exemple dans le précédent volume, quand on fait la différence, par exemple, entre eux, on compare ce que nous, on a édité et ce que Chéreau avait édité, des fois, notamment, par exemple, chez Robert Laffont pour l'histoire d'un ring dans les annexes. Et quand on lit, par exemple, les notes de travail, on voit que parfois, il les a annotées et parfois, il n'arrive pas à se relire. Alors, parfois, à côté, il met un point d'interrogation et quand on regarde ce qui a été édité, là, tout simplement, ça a été supprimé. Donc c'est une écriture qui est très difficile à appréhender. Bon, après, voilà, on prend le pli. Et ça se présente sous la forme, notamment, de feuilles volantes, format A4. Souvent, ce sont des notes, des feuilles qui appartiennent à un hôtel. Donc, il y a l'en-tête de l'hôtel. Par exemple,
c'est comme ça. Parce qu'il est en déplacement.
Il est en déplacement. Il est tout le temps en déplacement. Voilà. C'est-à-dire, chaque semaine, et là, il faut regarder aussi du côté de l'agenda, qui est une source majeure, hein, pour comprendre aussi la façon dont Chéreau travaille. C'est quelqu'un qui se déplace tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quelque chose aussi que j'avais vraiment voulu montrer dans le journal de travail. C'est quelqu'un qui se déplace tout le temps, donc qui voilà voyage, qui est tout le temps avec autrui, avec d'autres personnes, des spectacles qu'il va voir, des gens qu'il appréhende, avec qui il discute. Donc il n'est jamais seul et en même temps, il y a quand même ce temps d'écriture où il est là vraiment seul.
Et alors il écrit quoi?
Il écrit à la fois ses notes de lecture et en même temps aussi ses interrogations. Il écrit aussi, par exemple, sa compréhension d'un premier corpus de lecture qui, par exemple, peut être la pièce de théâtre qu'il va devoir questionner, réfléchir, avec, par exemple, un deuxième corpus de lecture qui lui sera peut-être, notamment dans les premières années, mais c'est aussi le cas des fois dans la deuxième partie, plutôt politique. Dans la première année, c'est plutôt d'un corpus marxiste qui va l'aider à questionner les pièces de théâtre. Alors à quoi ça ressemble? Et alors tout simplement, qu'est-ce que ça fait de travailler sur Chéreau pendant presque 10 ans? Eh bien, il y a quelque chose d'assez étrange. La première fois, quand on entre là-dedans, dans ce travail-là, notamment dans l'édition du journal de travail, on fait tout simplement son travail. On a l'impression que c'est tout à fait évident de faire ça.
C'est-à-dire, je comprends pas.
C'est-à-dire qu'on fait son travail d'historien, c'est-à-dire qu'on rentre dans les archives, on a l'habitude de faire ça. Pour nous, c'est une archive. Et
vous voulez dire que ça n'a pas de valeur spécifique au départ?
Au départ,
vous ne voyez pas vibrer ces archives autrement que d'autres archives?
Non, pour moi, c'est d'abord une trace du passé qui va m'intéresser, que je vais questionner, que je vais appréhender. Mais il est évident que, à force de travailler vraiment comme ça dans pratiquement le quotidien du travail de Patrice Chéreau, qu'ensuite on a accès aux agendas, il se passe quelque chose qui est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on finit des fois par passer beaucoup plus de temps et avoir peut-être l'illusion, en tout cas de connaître mieux des fois quelqu'un qu'on n'a jamais connu, qui est décédé, et que finalement le temps qu'on passe en archive, on ne le passe pas avec des gens bien vivants, que l'on connaît en principe. Et alors ensuite, quand on rencontre les témoins, les gens qui ont connu Patrice Chéreau, des fois ils vous font l'amitié de dire que vous le connaissez mieux qu'eux. Alors il y a comme ça un peu une sorte d'étrangeté. Cette étrangeté, par exemple, peut aussi se poursuivre, par exemple, dans la bibliothèque. Ma bibliothèque de lecture, de recherche, c'est progressivement transformé en bibliothèque de Patrice Chéreau, double fois deux.
Attention, vous prenez une drôle de pente. Richard Peduzzi, vous avez quoi comme rapport avec ces notes de travail? Ça rappelle la manière, là je vous voyais justement prendre des notes en dessinant.
Non,
je voyais.
Avec les notes de travail
de Patrice Chéreau?
J'ai aucun rapport avec.
Ouais. C'était quelque chose qui vous était complètement étranger.
Je ne peux pas rentrer pour le moment. Peut-être ça va venir. J'aime bien Julien. Je comprends tout ce qu'il fait, mais j'ai du mal. J'ai trop ma mémoire qui joue. Je veux dire, Patrice est quelqu'un. Je pense que depuis le temps qu'il est parti, plus le temps passe, plus il est présent pour moi dans ma tête. C'est vraiment la seule personne que je connaisse qui me fasse cet effet-là parmi mes amis, quoi. Donc on avait un tel rapport d'amitié, de travail, de complicité, à la fois on pouvait ne pas se parler, se regarder, on comprenait ce qui se passait chez l'un et chez l'autre. Tout ça, ça me manque. Je vis, hein, parce que sauf qu'il peut la vie, bien sûr, tout va bien. Mais je ne peux pas avoir pas Patrice. Je le voyais toute la journée en train d'écrire ou de lire le journal, de couper, ça m'énervait parfois. Les trucs de grappiller un peu partout tout ce qu'il pouvait ça le nourrissait, quoi. C'était son biberon. Il était là avec avec ses livres, avec ses journaux. Il arrachait les pages des livres parfois. Il faisait comme ça. Voilà. Il aimait beaucoup aussi les livres de photos. Et je me souviens, il y a une période comme ça qui a duré une dizaine d'années, je pense, pendant laquelle l'un comme l'autre, on achetait des livres de photos des grands photographes américains ou russes ou ça. Et par exemple, pour la Maison des Morts, on a continué à acheter des photos sur le Goulag, et ça nous donnait ça lui donnait des idées, ça m'en donnait aussi pour les décors.
Est-ce que vous aviez vos propres notes de travail, vous, de votre côté?
Moi, c'était mes dessins et mes notes, oui, j'en ai plein, oui, bien sûr. Je dessine et en notant, et en voilà, évidemment. Mais très différents, on était extrêmement différents en fait. Et c'est cette différence
qui vous nourrissait,
qui a fait que ça a tenu tant d'années ensemble, quoi. C'est cette différence et c'est cette façon de se dire au fond qu'on se connaît, qu'il y avait toujours une part de l'autre que l'autre ne connaissait pas. Et jusqu'au bout, ça a toujours été comme ça, parce que sinon, on se serait ennuyé au bout d'un moment à force de trop se connaître. Donc il y avait toujours ce mystère-là et un espèce de... On était, lui comme moi, on pouvait être très, très coléreux, se mettre en colère et tout ça, mais on faisait très attention de pas se fâcher. Tout en étant fâché quelquefois pendant 2-3 mois, mais on savait que c'était un temps comme ça pour ce que, par exemple, à Bayreuth, ça a été terrible, c'était trop, la première année était trop lourde, trop dure, on dormait plus, on savait plus comment on s'appelait, quoi, en gros, comme on dit.
Alors, du coup, ça doit faire bizarre, vous l'ouvrez, ce journal de travail, Richard Peduzzi, vous? Parce que vous parlez du rapport que chacun devait entretenir comme
non,
ça,
mais celui-là, de mystère. Je viens de l'avoir, je l'ai ouvert, j'en ai lu des passages. En voyant comment Julien travaille, ça me donne envie de regarder plus, de les lire plus, les trois livres qui sont sortis. Oui, je vais le regarder. Mais encore une fois, ça se passe pas comme ça, quoi. Ça se passe plus. C'est plus abstrait, ma relation avec lui. Ça se passe dans les rêves, la nuit. Ça se passe dans l'après-midi quand je fais un dessin. Et parfois, en souriant, je lui dis qu'est-ce t'en penses. Vous voyez, des trucs comme ça.
Voilà. C'est très intérieur et profond.
Je sais pas si c'est profond ou intérieur. Ça sort naturellement, quoi. Surtout en tout cas.
On va écouter une nouvelle archive. Vous disiez que Hamlet avait constitué comme ça un moment très particulier. On est en 1988 et il parle de sa compréhension du texte.
Ouais.
J'essaye de raconter Hamlet, par exemple. Disons que j'ai une ambition. C'est une question qu'il faut poser après la première. C'est-à-dire que j'ai des partis pris sur Hamlet. Je crois comprendre un certain nombre de choses. Je suis à peu près incapable d'en parler parce que je sais que le spectacle, je le connaîtrai quand je l'aurai vu, d'abord. Tout ce que je peux dire, c'est que, pour rassurer les gens, parce que j'ai fait 2 ou 3 interviews, on m'a dit, mais alors, vous ne pensez rien d'Hamlet. Je dis, si, loin de là, je pense beaucoup de choses. Mais Hamlet, après toute la littérature, tout ce qui a été écrit sur Hamlet, tous les films et toutes les pièces qui ont été faites, je ne vais pas prétendre rajouter pour l'instant, en parler en 10 minutes. Ce que je peux dire, c'est que je suis un petit peu dans la même situation que sur Le Ring, par exemple. C'est-à-dire sur une œuvre, heureusement, sur Le Ring, on ne m'a jamais demandé, pour vous, Le Ring, c'est quoi? Je pense qu'après, quand Le Ring était sur le plateau, on a vu que j'en pensais quelque chose. Et disons que mon ambition est que les gens sortant du spectacle se disent, l'histoire est formidablement bien racontée, et on ne savait pas qu'Hamlet racontait tout ça, ou que c'est ça que ça racontait.
Seigneur, je crois bien que je l'ai vu cette nuit.
Vu qui?
Le roi, votre père, monseigneur.
Le roi, votre père?
Réprimez un moment votre surprise. Accordez-moi toute votre attention. Et avec le témoignage de ces gentils hommes, je vais vous raconter cette chose étonnante. Dites-moi.
Journal de travail. Patrice Chéreau. 9 octobre 1988, Hamlet. Un caractère chez Shakespeare n'est jamais au centre. L'homme n'est pas au centre du monde, c'est là où il est moderne. L'homme est divisé, déchiré, il n'y a pas d'unité de sa conscience. Freud va dans le même sens. L'apport de la psychanalyse n'est pas l'Œdipe, qui ne se joue pas. Il n'a pas à justifier l'hésitation, jouer une chose dont on ne maîtrise pas le ressort. Ne pas tenter de donner une réponse de plus, ou pas répondre. Le trou noir qui attrape la conscience du spectateur. C'est un axiome qui ne doit pas s'auto-justifier. Le comportement, on ne peut que le constater. Montrer comment ça s'entrelace et l'alternance des deux, fable, sujet, crée l'émotion. Quand on voit cette conscience déchirée et qui souffre de ne pas comprendre, ça fait du mal. La mise en scène juste, ce n'est pas celle qui répond. Relire Entretien avec Truffaut. Regardez comment une pièce est faite. La découverte de l'Œdipe par Freud à la suite de la mort de son père, il l'a découvert à travers ses pièces. Une pièce, Œdipe, le figure. L'autre, c'est l'ombre portée d'Œdipe. Hamlet doit être interprété. Pièce à énigme, à la différence de l'autre. Shakespeare l'a écrit après la mort de son père, porté par cet événement, se rappelant tous les moments où il a souhaité la mort de son père. Lettre à Fliss, pas analysée, mais parler à quelqu'un. Regardez Claudel sur le théâtre japonais, l'espètre, le no. Il y a une série d'actions dont on s'étonne soi-même de les découvrir accomplir. C'est ça la découverte de la psychanalyse. Freud, Lacan, le séminaire. On ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un petit bout de ce journal de travail, c'est génial à lire, j'adore, ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui se croisent dans ces notes de travail à propos d'Hamlet. Donc on est en octobre 1988, on entendait une archive aussi où Patrice Chéreau parlait d'Hamlet. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tous ces mots-là, par exemple les notes que je viens de lire, Richard Pedoudi, est-ce que ça lui ressemble?
Oui, vraiment, beaucoup. Oui, il est... Ça lui ressemble, oui. Il est touchant, là, d'ailleurs. Je suis très, très ému d'entendre ça.
Qu'est-ce qui vous touche?
Bah, déjà sa voix.
Oui, bien sûr.
Déjà sa voix, vous savez, c'est beaucoup. Déjà l'absence, je ne peux pas lui répondre. Déjà, je trouve très admirable le travail de Julien, parce que c'est... Rien n'est faux là-dedans. Tout est juste et les gens ont besoin de ça, certainement. Quand je dis j'ose pas rentrer là-dedans, c'est presque comme on n'ose pas rentrer dans une pièce la nuit parce qu'il y a des fantômes. Donc, vous voyez, c'est presque, je dois dire que c'est une sorte de pas de pudeur, mais de crainte de ma part. Donc, toutes ces notes, toutes ces pensées écrites, voilà, ça me trouble beaucoup en fait.
Ça avait quoi comme statut, Julien Santresse, ces notes de travail? Est-ce qu'elles étaient destinées à être publiées? Là, on l'entend presque réfléchir. On l'entend vraiment être à l'œuvre dans sa pensée. Il avait à cœur que ça soit publié.
Je crois que, Richard, tu me diras si je me contredis, mais il me semble que non. Il me semble que c'était surtout pratiquement un lieu de savoir qui lui était personnel. C'est-à-dire qu'on voit parfois que dans les notes de travail, quand un projet n'est pas réalisé, ou même quand un projet est réalisé, il peut revenir à une ancienne note de travail et y faire allusion. Je crois d'ailleurs que c'est dans, à un moment donné, ce qu'il était dans l'archive qui vient de passer, il fait une allusion entre, un parallèle entre Hamlet et Siegfried, et il me semble qu'à un moment donné, dans les notes de travail sur Hamlet, il dit... Peut-être que Hamlet, quand il rentre d'Angleterre pour revenir au Danemark, il en a peut-être assez de vivre comme Siegfried, avec par exemple la motte que Siegfried jette par-dessus l'épaule. Et donc,
c'est une matière sur laquelle il revient.
Et c'est quelque chose qui revient, oui.
Il a lui-même les archives de ses propres notes de travail.
Oui, alors c'était donc vraiment un lieu de savoir. Et il faut bien comprendre que pour Chéreau, la présentation d'un spectacle public n'est pas le point final d'une œuvre. C'est-à-dire que c'est toujours un instant T d'un travail qui n'en finit pas.
D'ailleurs, il le dit dans l'archive, il y a des choses que je vais dire là qu'il ne faut dire que le soir de première et le travail va se poursuivre.
Et de la même manière, pour la tétralogie, je veux dire, c'était quand même quelqu'un qui disait dans ses notes, qui mettait dans ses notes, bon, je n'y arriverai pas la première année, peut-être que j'y arriverai en 1980. Il va falloir que je fasse comprendre à l'ensemble du festival de Bayreuth que la première année, ce sera un brouillon.
Quand on entend là, par exemple, dans cette juste cet extrait de page, on est en octobre 1988, on l'entend et convoque tellement de trucs en même temps. C'est-à-dire que c'est Freud, Lacan. Alors vous parlez de la psychanalyse, mais bon, il s'en sert quand même.
Bien sûr.
Il dit tiens, relire Truffaut, allez voir comment ça se passe pour une pièce, allez voir du côté du théâtre japonais. Enfin, on a l'impression que il fait vraiment feu de tout bois d'une certaine manière. Richard Pedoudi.
Oui. Alors je dois dire que en fait, toutes ces notes de travail, à mon avis, ça lui servait énormément pour improviser. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait, écrit tout ça, qu'il avait parlé de Truffaut, qu'il avait parlé de machin chose, qu'il revoyait Freud, qu'il revoyait... C'est une sorte de tournis qu'il avait à propos, comme ça, de son intellect. Mais face à un acteur, il oubliait tout ça. Et à mon avis, c'était autre chose.
Il se passait
autre chose avec le cœur des gens, avec l'âme, et puis tout simplement comme un peintre qui tout à coup, il a préparé sa toile et puis hop, il jette autre chose sur le tableau, sur la peinture. Et on voyait les mains de Patrice comme ça jeter toujours quelque chose de neuf. Et c'est dans le neuf, je crois, de le neuf, ce qu'on ne connaissait pas d'une œuvre ou d'une pièce qu'il allait fouiller. Et le neuf, il le trouvait encore à corps sur le plateau avec les gens, je crois. Toutes ces notes, c'était comme des étés, comme des,
vous voyez,
des fondations.
C'est intéressant quand même que vous parliez de la peinture. Vous êtes aussi peintre, Richard Peduzzi. Je disais en introduction qu'il plaçait, d'après ce que j'ai lu, la peinture comme ça en haut d'une grande pyramide des arts. Il y a quelques croquis, à peine 4 ou 5, qui sont reproduits là dans cette édition du Journal de Travail. Il y avait quelque chose dans son rapport à la graphie, à la peinture. Comment ça nourrissait directement ou indirectement son travail de mise en scène de théâtre, Richard Peduzzi?
Mais écoutez, il a commencé à faire ses propres décors. Patrice, il faisait ses décors. Il est né d'un père peintre, Jean-Baptiste Chéreau, et d'une mère qui était aussi peintre, Maddy Chéreau, qui est des gens que j'ai très bien connus, que j'aimais beaucoup. Il a commencé à faire ses spectacles en dessinant les décors, en faisant tout ça. Et il n'a jamais cessé d'aimer la peinture. Il était bizarre parce qu'il était assez, en fait, conventionnel dans ses goûts, classique plutôt que conventionnel dans ses goûts. Et il disait toujours, moi je me suis un peu arrêté à Francis Bacon. Vous voyez?
Pourquoi pas?
Moi aussi, pourquoi pas? Non, on s'arrête pas, mais je veux dire, il avait, je pense, un problème avec ce qu'on appelle l'art contemporain. Peut-être pas à la fin de sa vie, ça commençait à se, il y voyait plus clair là-dedans, mais je pense qu'il était très, très impressionné par les primitifs. D'ailleurs, qui sont extrêmement modernes, si on regarde les primitifs italiens ou flamands, de Fra Angelico au frère Van Eyck, à tous ces gens-là, il était très influencé par ça. Il y avait de la peinture dans ses spectacles tout le temps, évidemment, mais il avait vu son père souffrir de cette immense solitude de l'atelier et tout ça. Et ça, c'est là où on se rejoignait vraiment, quoi. La peur, panique d'être dans l'atelier, d'être seul et d'avoir de comptes à rendre à personne, mais en fait à tout le monde. Là, sur un plateau, il y a tout le monde. Il faut rendre des comptes toute la journée, quoi. Il y a les techniciens, il y a les acteurs, il y a les comédiens, il y a le public. Il y a un ensemble de populations comme ça énorme. Qui fait peur en même temps, mais on est là.
Sauve de l'extrême solitude d'une certaine manière.
Voilà, on peut pas, à un moment donné, on est obligé de dompter sa peur, et c'est ça. Et dompter la peur, enfin, pour moi personnellement, le travail avec Patrice m'a beaucoup servi à ça.
À dompter la peur.
À dompter la peur, ouais. Et j'avais une grande confiance en lui, et je pense que c'était un peu comme ça, réciproque, et ça nous a beaucoup aidé souvent à dompter la peur, oui. À dompter le trac, si vous voulez, à dompter tout ça. Je ne vais pas y arriver, quoi.
Oui, vous dites d'ailleurs que Julien Cintré, ce sont des choses qu'on retrouve dans les notes de Patrice Chéreau, le doute, le trac, la peur, mais aussi peut-être l'idée qu'on n'arrive pas aux choses immédiatement, que le travail, ça prend du temps, qu'il faut essayer, qu'il faut rater, qu'il faut réessayer.
On apprend à voir, on apprend à regarder, on apprend à travailler, même, il disait. Voilà.
Et on sent ça, je trouve, dans la manière dont les notes de travail évoluent, c'est que ça avance, ça recule, c'est pas un matériau bloc, Julien Cintré.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, même dans le, je crois que c'est dans le tout premier journal de travail, quand il est encore très jeune, dans les années 60, à Sartrouville, juste avant qu'il ne vienne à Sartrouville, il y a quelques notes où il s'en prend un peu, bon, dans ses propres notes, hein, aux gens avec qui il travaille au tout départ, en disant, qu'est-ce que c'est que ces congressistes qui veulent absolument tout savoir avant même d'entrer sur scène? Moi, je ne sais rien.
Oui.
Je ne sais absolument rien.
Richard Peduzzi approuve.
Et voilà, et on va voir en faisant. Et même lui, en fait, au départ, il le dit, quand il commence à mettre en scène, il ne sait rien de ce que c'est qu'un acteur qui joue. Et donc, au départ, en fait, il est très peu sûr de lui, probablement, il fait comme il avait l'habitude de faire avec le Berliner Ensemble. C'était eux aussi, déjà, qui faisaient des grands dessins au stylo bille. Donc ça, c'est des choses qu'il avait pris à Carl von Appen ou Caspar Neuer. Et... par exemple, il faisait tous les dessins des mises en mouvement, par exemple, des personnages, et il montrait ça aux acteurs. Et les acteurs se trouvaient bien embêtés au départ en disant, mais qu'est-ce que je suis censé reproduire? Je suis censé reproduire un mouvement. Et ensuite, progressivement, il se libère de toute cette préparation et il est capable aussi de voir ce que les autres vont lui amener.
Et il va, comme on l'a souvent décrit, au plus près, au contact, sur le plateau. Ce qui m'intéresse, peut-être on arrive à la fin de cette émission, mais c'est finalement toutes ces notes de travail, à vous entendre, elles sont prêtes, faites pour être, presque faites, si je comprends bien, pour être oubliées. C'est-à-dire, on écrit, on travaille, on amasse plein de savoirs, plein d'idées, et ensuite on se jette dans le vide.
Elles sont faites à la fois pour être oubliées, pour revenir, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas un oubli comme ça, on écrit et puis pof, c'est fini. Non, elles sont pas emmurées, elles sont libres. Donc on en fait ce qu'on en veut. On les lit pas, on les lit en diagonale, on les regarde. On dit il était pas sûr de lui, mais à la fin il était quand même très sûr de lui, quoi. Il savait qu'il avait atteint quelque chose de pratiquement inatteignable, qui mettait le théâtre hors du théâtre. Il le disait pas comme ça, mais ça se voyait dans Electra, ça se voyait dans I Am the Wind, ça se voyait dans Tristan même. Je pense qu'il savait que c'était la fin. Il ne se l'avouait jamais, et toujours on parlait du prochain spectacle qu'on devait faire ensemble. Par exemple, Moïse et Aaron, ou d'autres encore. Je crois le Château de Barbe Bleue. Voilà, il y avait jamais. On pensait pas que ça pouvait arriver, cette fin, mais il le savait en même temps, quoi.
Un immense merci, Richard Peduzzi, d'avoir été avec nous. Un immense merci, Julien Santrez, d'avoir été avec nous. On a évoqué le journal de travail de Villeurbanne à Nanterre, tome 5, 1977-1988. On n'a pas dit un mot de Nanterre, mais bon, en même temps, on peut pas tout dire. Je cite ce très beau livre paru aux éditions Actes Sud. Là-bas, c'est dehors. On peut voir et lire vos textes et voir des images, des dessins, des photographies. Richard Peduzzi, on mettra évidemment tout ça sur le site du Book Club franceculture.fr. Merci à vous deux.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
15h50 dans le Book Club, on reçoit de la visite et le mardi, c'est vous, Lou Quevauvillier, qui venez nous rendre visite. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Dans votre chronique lecture numérique, vous croisez comme ça des enjeux qui ont à voir avec le monde numérique, nos pratiques numériques et le texte, la littérature. Aujourd'hui, vous nous proposez d'écouter une série de podcasts qui s'appelle Les Parleuses.
Oui Marie, j'ai pensé que si nos auditrices et nos auditeurs écoutaient le Book Club, ils auraient probablement la curiosité et l'envie d'aller découvrir un autre format audio consacré à la littérature. Le podcast dont il est question s'appelle effectivement Les Parleuses. Dans chaque épisode, une autrice contemporaine nous raconte l'œuvre d'une autrice d'une autre époque qui l'a marquée, une autrice qui a compté mais qui a souvent été invisibilisée, effacée de l'histoire littéraire. Dans le désordre, on écoute Albertine Sarrazin, proposée par Lisette Lombé, Violette Leduc par Estelle Sarabul, Valérie Solanas par Chloé Delhomme, Carson McMullers par Fanny Carello. Au total, 40 autrices du matrimoine littéraire racontées par 40 autrices qui font la littérature féministe d'aujourd'hui.
Alors, est-ce que le titre du podcast, c'est le titre d'un ouvrage de Marguerite Duras ? Est-ce que je me trompe ?
Oui, bien vu. C'est un clin d'œil immédiat au livre du même nom qui a paru en 1974. C'est un livre d'entretien entre elle et la journaliste féministe Xavière Gauthier, où elle parle d'écriture et de lecture. On imagine bien comment ces deux-là ont pu être choisis par l'équipe des Jaseuses comme des parfaites figures tutélaires de ce podcast.
Des Jaseuses ou des Parleuses ?
Des Parleuses.
Joli lapsus. Qu'est-ce qu'est l'initiative des Parleuses, Lou ?
Il s'agit d'Aurélie Olivier, qui est autrice et également présidente de l'association Littérature, etc. C'est avec ces deux casquettes qu'elle porte le projet depuis 2019. Aurélie Olivier s'intéresse particulièrement à la littérature émergente de femmes et de personnes trans. On la connaît pour avoir initié et préfacé le très beau livre collectif « Lettres aux jeunes poétesses » paru aux éditions de l'Arche. Pour les parleuses et à un rythme un peu aléatoire, Aurélie Olivier se déplace dans des médiathèques en région parisienne et dans les Hauts-de-France. Elle propose à une autrice, différente à chaque séance, de l'accompagner et de produire en public une forme sonore à partir d'une œuvre d'une écrivaine qui l'aurait influencée. Pas de règles concernant l'œuvre au menu de la séance, elle peut être de n'importe quelle époque et écrite en n'importe quelle langue. L'écrivaine invitée par Aurélie Olivier peut choisir de faire la présentation d'un livre, de lire des extraits de texte, de faire une performance, de se faire accompagner par des musiciens ou des musiciennes, ou tout ça à la fois. La séance est enregistrée en direct de la médiathèque, il y a un peu de montage, et puis on peut l'écouter quelques jours après en podcast. Dans le dernier épisode, par exemple, la poétesse Séverine Daucourt a choisi d'évoquer le parcours de Lou Andrea Salomé. Lou Andrea Salomé est une autrice germano-russe, elle est connue pour sa littérature, mais aussi et surtout parce qu'elle fut l'une des premières femmes psychanalystes. On la présente d'ailleurs souvent uniquement comme la femme d'eux, parce qu'elle a été la compagne de Nietzsche. Dans cet épisode, Séverine Daucourt raconte la manière dont elle a découvert l'œuvre de Lou Andrea Salomé et comment la langue de la poétesse l'a guidée. Elle propose une lecture musicale de ce récit écrit à la la première personne et qu'elle a imaginée spécifiquement pour les parleuses.
C'est une très grande, je crois, autrice de correspondance, Lou-Andrea Salomé. On peut aller voir ça. Est-ce qu'on a déjà le programme de la prochaine séance des parleuses, Lou?
Oui, on sait déjà ce qu'on va se mettre dans les oreilles la prochaine fois. La 41e séance sera animée par l'écrivaine et traductrice Noémie Grunenwald, qui présentera un texte inédit sur Joan Nessel, une autrice et éditrice américaine militante lesbienne. Noémie Grunenwald connaît bien son œuvre puisqu'elle l'a traduite vers le français l'année dernière à l'occasion de l'apparition du livre Femme aux éditions Hystériques et Associés, une maison d'édition qu'elle a fondée. La séance sera enregistrée à la médiathèque Marguerite Yourcenar à Fâche-Thumesnil le samedi 25 novembre prochain et le podcast sera disponible par la suite. Alors, on a parlé de l'aspect sonore parce que c'est l'aspect numérique du projet qui nous intéresse, mais une séance des parleuses, c'est une après-midi qui comprend toujours, avant l'enregistrement de l'autrice invitée, un atelier d'écriture et un temps de lecture. À venir donc pour les présents présentes sur place le 25, un atelier d'écriture mené par Noémie Grunenwald et une lecture en arpentage d'un texte de Joan Nessel animé par Aurélie Olivier.
J'espère qu'il y a un goûter quand même ou un petit peu de thé ou un truc, je ne sais pas, amenez vos gourdes. Tout ça, c'est à retrouver sur le site de l'association, donc vous l'avez dit tout à l'heure, littérature-etc.com.
Merci Marie et j'en profite pour dire qu'Aurélie Olivier, avec l'association Littérature etc., organise aussi un festival de littérature, le festival etc., qui a lieu dans les Hauts-de-France et qui commence cette semaine au programme de la littérature pas vraiment numérique, mais toujours hors du livre, parfois performée, parfois sous la forme de massages littéraires, de rencontres. Cette année, le thème, c'est plaisir au pluriel. Là encore, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet de Littérature etc.
Et vous réécoutez, vous, lecture numérique sur franceculture.fr. Merci Lou. h 55, c'est l'heure de jouer. Le grand jeu des pages musicales, j'en rappelle le principe. Vous êtes en train de lire un livre, vous rencontrez l'évocation d'un air musical à l'intérieur d'un paragraphe, vous faites une petite photo de ce paragraphe ou alors vous le recopiez, vous nous l'envoyez via la communauté Instagram Le Book Club de Culture ou alors à cette adresse mail lebookclub@radiofrance.com. L'auditrice qui nous envoie un extrait aujourd'hui s'appelle Anna, elle a fait via le mail. C'est un extrait des années, un livre d'Annie Ernaux paru chez Gallimard en 2008. Les années qui se sont écoulées de la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui sont revisitées par la mémoire d'une femme et ça fait comme ça, on est à la toute fin du texte. Le film Des gens sans importance. L'affiche à demi déchirée, 3615 Ula, au bas de la côte de Fleury-sur-Andelle. Une maison au fond d'un jardin, 35 avenue Edmond Rostand à Villiers-le-Bel. Le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre. L'homme en pyjama et chaussons tout l'après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise, qui pleurait en demandant aux visiteurs d'appeler son fils, entendant un bout de papier sale où était écrit un numéro. La femme de la photo du massacre de Hocine, Algérie, qui ressemblait à une Pietà. L'éblouissant soleil sur les murs de Saint-Michelet, depuis l'ombre des Fondamenta Nueve. Un bar et un jukebox qui jouait Apache à Tally Ho Corner, Finchley. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. À la réalisation aujourd'hui, c'était Colin Gruel, au son Grégory Wallon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Léa Weiss-Grus, Jeanne Léos, Didier Pinault, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Alexandre Alaï-Begovic, Anouk Delfino et Mathilde Wagman. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr, vous pouvez rejoindre la communauté du Book Club via l'Instagram et puis nous écrire lebookclub@radiofrance.com. Très bel après-midi sur France Culture.